Eh bien, Simone, maintenant, je pense que nous allons pouvoir un peu parler.
Radio Campus.
All cities have a crime problem.
88.3.
Qu'est-ce qu'on peut faire?
We'll be under central control.
En 1965, la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours déclenché à Curie, au palais de la
Syrie. De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Il a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuites.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
Allez, hop, on est en retard. Bonsoir à toutes et tous.
C'est un bâton rompu qui démarre sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. Merci à vous d'être fidèles à notre traditionnel rendez-vous, ce magazine d'infos d'une heure pour parler d'actualité et d'autres choses. Aujourd'hui en studio avec moi, de la gauche vers la droite. Bonsoir Marine. Alors attends, bouge pas, je crois que j'ai pas ouvert les micros.
Bonsoir.
Bonsoir Marine. Asma est là également.
Bonsoir Hassan, bonsoir
tu
à tous.
Tu parleras dans cette émission d'un film que tu allais voir hier, il me semble.
Oui, absolument.
Un film israélien, ça s'appelle Le Déserteur.
Exactement.
Vu l'histoire, ça doit être un super film.
Oui.
On t'écoutera dans quelques minutes. Bonsoir Monsieur Steven.
Bonsoir Hassan.
Attends, vas-y.
Là, tu m'entends?
Mais
c'est bon.
Oui. Oui.
Bon, bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à tous.
Oui. Et toi, tu nous feras un reportage. Hein, tu nous ramènes un reportage du 1er mai.
C'est ça, voilà, la fête des travailleurs. La journée internationale des travailleurs.
Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous dites?
Attends, sinon je vais me faire engueuler, moi.
La fête du travail, la fête des travailleurs.
Non, pas la fête du travail, ça c'est
non, non,
un
trop
Macron.
Mais non, mais faut pas souffler.
Non, 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 c'est complètement pétiniste la fête du travail.
Donc, non, non, ça dégage.
Ouais, voilà.
Normalement, c'est la journée internationale du droit des travailleurs.
Exactement. Oui, c'est ça, absolument, c'est vraiment ça. Bonsoir Victor, donc.
Bonsoir Hassan, d'ailleurs, bonsoir à toutes et à tous.
Tu nous feras un historique, une histoire, pas une historique, une histoire de la, du début de cette commémoration, de cette date si importante. Avec Marina et aussi quelques petites choses dessus. Pour le reste, Mourad, dans deux petites minutes, Mourad, nous parlons d'un article qu'il a fait pour un dossier pour l'Humanité, qui est en première page de l'Humanité hier, sur la protection de l'enfance. Et puis nous aurons ici, dans cette émission, en fin d'émission, Tahar Benchaban. Tahar Benchaban est ancien conseiller municipal. Il est déjà venu dans cette émission nous parler de cette formation privée de médecine, parce qu'il suit vraiment le dossier. Il est là. Hier, j'ai appris que c'était le concours pour la troisième promotion d'étudiants et étudiantes de cette fac qui est gérée, on peut le dire. Elle est basée à Orléans, mais elle est gérée par l'université de médecine de Zagreb. Et il y a des choses à dire, vous allez voir. Je crois que j'ai rien oublié. On est bon. On y va à bâton rompu avec Mourad tout de suite. Bonsoir Mourad. On commence avec ce dossier sur la protection de l'enfance que publie le quotidien L'Humanité. Tu as écrit un article, tu as fait une enquête à Orléans là-dessus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du lourd.
Oui, c'est du très lourd. Alors, je savais qu'il y avait des problèmes, même comme beaucoup d'acteurs hein, du milieu, je savais depuis un petit moment, les travailleurs sociaux nous interpellaient sur le fait qu'il y avait un certain nombre de dysfonctionnements et de problèmes à la maison de l'enfance, donc qui accueille des jeunes de 0 à 18 ans, qui sont placés par la justice parce qu'ils ont subi des problèmes ou alors qu'ils ont été la cause de problèmes, mais qui doivent être placés, sortis de leur contexte familial. Et le manque de moyens fait que cette maison de l'enfance en fait, se transforme en véritable nid à problèmes supplémentaires, notamment ça part tout simplement d'un manque de place, hein, puisqu'il y a des chambres par exemple de 9 mètres carrés qui doivent héberger, ben, un peu comme sur le campus, hein, qui doivent héberger un seul enfant et qui se retrouvent à héberger deux enfants sans qu'on ait vraiment le temps d'évaluer si ces deux enfants sont compatibles, peuvent demeurer ensemble sur un si petit périmètre. D'une part, ça passe par le manque de personnel parce que ce n'est pas un métier attractif. Il y a souvent des intérimaires qui sont embauchés, qui sont donc sous-formés. Et le problème, c'est que derrière tout ça, il y a le conseil départemental qui, en gros, dit que l'État ne joue pas son rôle. Et comme l'État ne joue pas son rôle, ne met pas les moyens, il se déverse un peu effectivement sur le conseil départemental. C'est ce que j'ai pu observer. Mais derrière, ça se traduit concrètement, parce que ça, ce sont des jeux de ping-pong en fait, entre l'État et les collectivités locales. Derrière, ça se traduit très concrètement par une véritable souffrance des enfants et des personnels. Et ça passe notamment, alors concernant les enfants, ça passe, et les très jeunes adultes, ça passe par des violences physiques, ça passe par des violences et agressions sexuelles, ça s'est passé aussi, alors pas spécialement à la maison de l'enfance, mais ailleurs, par des viols, par des tentatives de suicide également à la maison de l'enfance, et aussi par des réseaux qui viennent récupérer. Alors, on est à deux pas du commissariat hein, central d'Orléans.
Bien sûr, évidemment.
Ça passe par des réseaux qui vont aller récupérer. Pardon ?
Non, mais je dis évidemment, je vois à peu près où c'est la maison de l'enfance, mais pas très loin du commissariat d'Orléans.
Voilà. Absolument, et malgré ça, il y a des réseaux de prostitution qui viennent récupérer des gamins, leur offrant des cadeaux et les emmenant se prostituer en région parisienne. Donc, c'est tout à fait dramatique. J'y ajoute des fugues régulières, des fugues parfois de 2-3 semaines. sans qu'on ait le temps à leur retour de pouvoir les questionner, de savoir ce qui s'est passé et d'essayer d'avoir un suivi psychologique. Donc c'est vraiment dramatique. Honnêtement, j'emploie rarement ce terme-là, les mots ont un sens. Là, la situation est totalement dramatique. Alors de manière assez, je dirais, assez remarquable, au sens premier du terme, la vice-présidente en charge du secteur, Madame Galzin, a reconnu absolument les faits, ne s'est pas cachée derrière son petit doigt, et a pointé tout ce qui n'allait pas, a validé tout ce qui était tout ce qui a été le fruit de mon enquête pendant plusieurs semaines. Donc elle a tout reconnu, mais elle a estimé qu'à la fois c'était pas propre au Loiret, alors c'est un fait vérifiable, mais que il manquait de moyens et qu'il fallait que l'État et que notamment la PJJ, donc la protection de la jeunesse, la protection judiciaire de la jeunesse, arrête en gros de déverser les enfants de manière volontariste, déverser les stocks d'enfants dont elle ne souhaite pas assurer la sécurité vers le département qui, lui, vraiment n'a pas actuellement les moyens de pouvoir gérer tout ça. Et donc ça se retourne également, puisque c'est des enfants qui ont un background extraordinaire, qui ont d'énormes soucis, et parfois des soucis de handicap, et qui sont déscolarisés quasiment, qui restent toute la journée dans ces locaux qui ne sont pas du tout adaptés. Et donc voilà, donc il y a une recherche de solutions qui pourraient passer par des petites structures accueillant 6 à 8 enfants, parce que là on parle de 160 enfants dans un même centre.
Absolument.
Et inadaptés, et donc c'est dramatique, c'est tragique. Et parfois, quand il n'y a plus de solution, quand il n'y a plus de place, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie, ou quand il y a des problèmes de violence, on renvoie certains enfants dans leur foyer d'origine, le même foyer qui avait causé une décision, provoqué une décision de justice, justement pour protéger les enfants. Donc c'est dramatique. C'est vraiment une situation totalement, totalement incroyable, et je suis très surpris qu'on n'en ait pas parlé au moins davantage dans les médias régionaux, parce que c'est quelque chose que je trouve complètement complètement scandaleux.
D'autant plus qu'il y a eu une manifestation, je pense. Et justement, la question que je voulais te poser, c'est les personnels de cette maison de l'enfance ont pu parler librement avec toi? N'ont pas eu peur?
Ils ont pu parler librement avec moi. Il y en a deux qui n'ont pas souhaité donner leur identité par peur de représailles, ce que je comprends tout à fait, notamment une personne précaire. Non, c'est la déléguée syndicale, Laure, qui, elle, m'a parlé très librement et qui exprime, notamment par courrier, signalisation, depuis des mois, pour pas dire plus, effectivement, ces dysfonctionnements, des années. Ouais. Et effectivement, comme tu dis, je crois que c'est le 4 avril qu'il y a eu un mouvement de grève et une manifestation.
Tout à fait.
Mais ça ne règle pas les choses. Et moi, ce que je voulais vraiment, c'était incarner et humaniser ces situations dramatiques, et donc de parler de la situation des enfants et des personnels, bien évidemment. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de démontrer. Je pense que malheureusement, ça correspond à la réalité, puisque je le redis, Madame Galzin, au département, à la vice-présidence, a validé en fait tous ces éléments absolument incroyables.
Ouais. Et comme tu le dis, j'ai pas beaucoup lu dans la presse de chez nos confrères au niveau local et régional un article sur la maison de l'enfance. Il y en a eu, je pense, ils ont couvert la manifestation. Mais...
Alors, oui, je pense qu'il y a eu des choses par rapport aux mouvements sociaux. Oui. Mais je veux dire, sur le fond, les mouvements sociaux doivent alerter. Derrière la question des moyens, derrière la question des responsabilités qui peuvent paraître administratives et ainsi de suite, derrière, il y a des humains. Et quand on est alerté de ce genre de choses, je pense qu'il faut plonger littéralement dans ce dossier pour essayer de comprendre ce qui s'y passe. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, et le résultat est vraiment, vraiment accablant. Il est au-delà de ce que j'imaginais. Franchement, je ne pensais pas que cette situation était aussi complexe, aussi dramatique et aussi impactante pour les enfants et pour les personnels. Je le redis, ils sont également dans ce truc-là. Et là où on se mord la queue, c'est qu'en fait, la situation est tellement grave que ils ont du mal à recruter. Personnels, et moins de personnel, moins d'encadrement, plus de violence, plus de problèmes, plus d'agressions, Donc c'est une situation terrible que j'espère qu'un jour les pouvoirs publics vont réaliser que c'est là qu'il va falloir vraiment mettre le paquet pour sauver ces gamins et ces personnels.
À lire dans l'Humanité, alors c'est sur le numérique ou déjà en presse papier?
Ça a fait la une de l'UMA de lundi, et c'est à retrouver naturellement, comme c'est sur l'UMA papier, c'est à retrouver également sur l'UMA.fr.
Le titre, à Orléans, une maison de l'enfance défaillante, c'est dans le cadre d'un dossier, je disais, c'est ça ?
Absolument, c'est un dossier complet, donc comme je te disais, qui fait la une de l'UMA de lundi, bien sûr, ouais. Un dossier complet sur le problème de l'abandon. De l'enfance maltraitée.
Et pour être complet sur ce sujet, dire que ce mardi, plus de 200 anciens de l'ASEC, l'aide sociale à l'enfance, se réunissent à l'occasion des travaux d'une commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements de l'ex-DAS. Voilà.
Et, absolument. On est dans l'actualité aussi par ce biais-là.
Et passer un bonjour à. Il est très actif hein, sur les réseaux sociaux. Lies Loufoque, que tu connais évidemment, qui lui-même a été un enfant battu et tout ça, qui est à la tête de cette mobilisation de ce mardi. Deuxième chose, Mourad, cette semaine, on a beaucoup parlé de liberté d'expression, mais on va s'attarder, nous, sur l'affaire qui concerne une très, très bonne amie, Nassira El Moadem, notamment, Nassira qui nous a aidé à monter avec Radio Campus le Bondi Blog. Elle a été directrice du Bondi Blog pendant longtemps. Elle est actuellement journaliste à Arrêt sur Image et puis elle fait plein d'autres choses. Elle a fait un tweet qui parlait un tweet d'énervement comme il peut arriver en parlant de la France comme d'un pays raciste et dégénéré. Et elle a reçu, comme on dit en bon français, un shitstorm, Mourad.
Oui, absolument. Alors, elle a eu toute l'extrême droite contre elle. Alors, ça, quand je dis extrême droite, c'est au sens très large. Hein. C'est-à-dire que c'est à la fois l'extrême droite politique et l'extrême droite médiatique. C'est-à-dire celle qui passe notamment par Pascal Praud et par le journal du Dimanche, puisque maintenant ça appartient au groupe Bolloré, où elle a été accusée de racisme anti-France et il fallait qu'elle rentre chez elle. Bardella, notamment, l'a sommée de dégager. Enfin, il y a eu toute une campagne vraiment à la fois sexiste, à la fois raciste et misogyne pour à partir d'une phrase, tout simplement, parce qu'elle s'exprimait sur le fait que la Fédération française de football, si mes souvenirs sont bons, avait demandé aux régions de ne plus tolérer un certain type de tenue, évidemment, réclamée par des musulmanes ou par des musulmans. Et donc, ça a provoqué sa colère légitime. Et ça s'est traduit dans le collimateur depuis un petit moment. Hein. C'est une journaliste brillante qui réussit, voilà, d'ailleurs, qui est de Romorantin, hein, je le précise.
Hein, elle est de Romorantin. Hein,
elle est de la région Centre-Val-de-Loire. Voilà, comme elle est présumée être de gauche, qu'elle est présumée être musulmane, donc elle est présumée être islamiste. Et donc là, ils en ont profité évidemment pour se lâcher littéralement. Aucune protection évidemment de la part des pouvoirs publics, aucun coup de fil de Macron. Mais un certain nombre de messages sur les réseaux sociaux, alors elle a eu énormément de menaces, hein, de viol,
oui, mais
de mort et ainsi de suite. Ouais. Voilà. Et c'est un internaute que j'avais croisé sur les réseaux qui s'appelle Guillaume et qui lui. C'est étonné, notamment des réactions de certains journalistes. Alors, en l'occurrence, c'était Guy Birenbaum qui, lui, dit « Je suis né en France, j'ai grandi en France, patati patata. Pour moi, la France n'est pas un pays de racistes dégénérés, entre guillemets, puisque c'était l'expression employée. » Et cet internaute s'est étonné auprès de Guy Birenbaum en disant « Moi, je ne suis pas intelligent, je n'ai pas de culture particulière, machin. Je ne suis pas un ancien journaliste, je ne suis pas un ancien éditeur. Et pourtant… » c'est pas dur à comprendre. Et il a posté une capture de ChatGPT à qui il pose la question. Quand on dit qu'un pays est un pays de dégénérés, de racistes dégénérés, est-ce que ça concerne tous les habitants ? Et évidemment, ChatGPT répond non. naturellement, ça ne concerne pas tous les habitants, évidemment. Puisque c'est une généralité qui donne un climat général dans un pays, mais ça ne concerne évidemment pas tous les habitants de ce pays. Ce serait complètement stupide, complètement débile de prendre appui sur ce tweet pour pouvoir la dire, je sais pas, anti-France, anti-français ou je ne sais quoi. Donc voilà, là elle subit quelque chose d'extraordinaire. Alors le summum, évidemment, c'est qu'elle refuse d'aller sur les plateaux, notamment. Alors oui, Hanouna s'y est
mise
aussi.
Elle est invitée par Hanouna et elle a
décliné,
refusé. Ce qui lui a valu quelques insultes de ce sinistre bonhomme aussi, je pense.
Oui, bien sûr, d'une part. Et puis d'autre part, elle a à la fois décliné et laissé un message en disant qu'elle avait demandé à ce qu'on lise son message de justification, ce qui n'a pas été fait. Et elle a également été l'objet indirectement, puisqu'elle n'était pas sur le plateau, d'une attaque assez violente que je pense on va écouter sur le plateau de Morandini, qui a été, je vous rappelle, condamné pour des problèmes d'incitation à la débauche, pour employer un vieux terme, de mineurs, et qui devrait peut-être ne pas trop la ramener, et qui pourtant se permet... ce genre de choses que vous allez écouter.
Ouais, Jean-Marc Morandini, mais avec un monsieur dont tu nous parleras tout à l'heure qui s'appelle Karim Maloum, que je découvre là, qui est régulièrement invité sur CNews. Et ce monsieur, je crois qu'il est journaliste, ancien journaliste algérien. Et,
j'en parlais sur le Média TV justement. Ouais. Récemment, moi aussi, je l'ai découvert. En fait, c'est une espèce de chroniqueur, ancien journaliste, une espèce de nouvelle caution hystérique qui se dit à la fois musulman et qui se dit algérien et amoureux de la France, et qui évidemment se sert de cette étiquette-là pour flinguer la communauté musulmane qui n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment.
Dans ce document, ils s'en prennent tous les deux, Karim Maloum et Jean-Marc Morandini, et non seulement Nassir El-Mouadem, mais aussi d'une dame que je ne connaissais pas non plus, qui était sur le plateau et qui défendait un petit peu ce que disait Nassir El-Mouadem. Écoutez ça.
Merci d'être en direct avec nous, vous êtes analyste politique. Est-ce que pour vous, le discours de Nadia Bey, il est audible quand elle dit « on est stigmatisé et pays de racisme dégénéré, la France ».
En fait, ce que votre invité se donne un statut de victime, en fait, ce statut, ça lui permet, c'est une forme d'aristocratie, elle a tous les droits, elle peut insulter tout le monde, elle peut insulter les Français, les prendre racistes et les qualifier de dégénérés, elle a tous les droits, mais par contre, il n'a pas de devoir de respecter son pays qu'il a accueilli.
Mais attendez, il y a une confusion, je ne peux pas.
On laisse parler.
Non, je ne peux
on
pas.
Laisse parler. Non, oui, mais vous vous taisez pour l'instant, on laisse
non,
parler.
Non, attendez, non.
Non, non là, non, vous vous taisez. Excusez-moi, Nadia Bey, c'est moi qui décide qui parle sur ce plateau. Donc pour l'instant, ce n'est pas vous. Vous répondrez après, Nadia.
Au fait, cette dame se stigmatise elle-même, tout simplement. Moi, je veux revenir un peu sur ce que cette journaliste Nassira El-Mouadem a dit. C'est un pays de raciste et dégénéré, c'est ignoble et indigne. Au fait, elle a répondu à un communiqué de la Ligue amateur de football. Au fait, ce qu'elle a mis dans son tweet, c'est qu'elle a... En fait, c'est pas que la France qu'elle déteste seulement, elle déteste particulièrement ses valeurs d'égalité, de fraternité, de laïcité et de liberté. Ces personnes, comme Nadia que vous avez, j'ai oublié son nom, prénom, ces personnes crient au racisme, à l'islamophobie, à chaque fois que la République décide de limiter l'offensive des islamistes. Cette attaque... Après l'attaque contre l'école, pour imposer le voile, les islamistes se sont aussi attaqués au sport. Ils veulent invisibiliser le corps des femmes. Ils ne veulent pas que les femmes jouent, fassent du sport en montrant leurs cheveux, leurs mollets, leurs genoux, leurs cuisses. Non, ils veulent les invisibiliser. Donc le président de la Ligue du football amateur a rappelé que le port d'un certain nombre d'équipements, il n'a pas prononcé le mot voile bien sûr, d'équipements nécessite l'accord de la Ligue pour éviter qu'il y ait des personnes qui viennent voilées et d'autres ne sont pas voilées. Parce que dans notre République, c'est de la discrimination propagandiste, n'a pas sa place sur le terrain de football. Le président de la Ligue de football amateur a rappelé le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Il n'y a aucune différence. Invisibiliser les femmes, c'est de les inférioriser.
Et Mourad, c'est qui ce type ?
Eh bien, je ne sais pas exactement, c'est un chroniqueur qui vient de débarquer comme Abnous Chalmani.
Oui.
Je ne sais pas d'où elle vient, d'où il vient. On ne sait pas d'où viennent ces gens-là, en fait, mais d'un coup, ils se mettent à envahir l'espace médiatique parce qu'ils répondent à des codes, en fait, ils cochent des cases. Lui, en l'occurrence, la case, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire c'est un Algérien qui se dit musulman, qui aime la France et qui donc va dégoiser sur ses co-religionnaires musulmans, évidemment, idéalement, les accuser de ne pas aimer la France, d'être anti-France, de vouloir la mort de la laïcité, la charia, enfin toute une série de choses, mais je ne sais pas du tout d'où il vient. Et franchement, je ne me suis pas penché dessus parce que ses propos sont tellement grossiers, sont tellement énormes que je trouve qu'il n'a pas beaucoup d'intérêt. S'il avait un espèce de raisonnement avec lequel je ne serais pas d'accord, mais qu'il soit un peu construit, j'avoue que ça vaudrait le coup d'en parler. Là, je pense que c'est vraiment un sombre personnage. Simplement, évidemment, mais comme à chaque fois, c'est évidemment aux gens qui l'invitent et aux chaînes qui l'invitent à qui j'en veux, parce qu'on n'a pas à donner la parole à des personnages aussi, aussi sulfureux, aussi grossiers que ce monsieur.
On entend bien Morandini qui se lèche les babines, là. Donc je pense qu'il doit faire ça régulièrement dans son émission. Et je vous parlais d'une invitée qui était sur le plateau de Jean-Marc Morandini. Il s'appelle Nadia Bey. Elle est également journaliste franco-algérienne. Elle est,
oui, et conférencière. Et elle je ne sais pas comment elle a gardé son calme, mais peut-être qu'on aura le temps de passer l'extrait de fin. Ouais. L'extrait de fin où vraiment Morandini sort de ses gonds et sort de son rôle en disant « Taisez-vous, vous n'aimez pas la France ». Et donc, je ne vois pas au nom de quoi ce repris de justice peut asséner comme ça, courageusement face à une femme cultivée. Par ailleurs, comment il peut asséner de tels propos? J'avoue que je suis cueilli parce que c'est vraiment d'une violence extraordinaire. Ah ouais, non, vraiment... On va peut-être pouvoir l'écouter.
Merci Mourad d'avoir participé encore à cette émission.
Merci infiniment. Je rejoins Orléans après avoir enregistré ma chronique du Média, L'œil de Moumou. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir.
Ça marche. Tu rentres surtout pour aller voir Jeanne d'Arc. Ouais.
Ah bah oui, la joie, le bonheur, évidemment.
Évidemment. Allez, bonne route et à très très vite.
Je vous ai écouté plusieurs fois sur ce plateau. Vous n'êtes pas digne justement d'être un franco-algérien, parce que ceux qui critiquent...
Voilà, c'est vous qui désignez, madame. Oui. C'est vous qui décidez qui est digne et qui est digne. Excusez-moi, moi je préfère avoir Karim Maloum, parce qu'il défend la France, parce qu'il aime la France. Vous, je suis pas sûr, Nadia Bey. Je suis de moins en moins sûr que vous aimiez la France.
Ce qualificatif-là, vous lui mettez une cible dans le dos. Vous lui mettez une cible dans le dos, c'est épouvantable.
De moins en moins, je suis de moins en moins sûr que vous aimiez la France. C'est bon, merci Karim Maloum. S'il vous plaît, stop. Non, Nadia Bey, stop. Nadia Bey, stop. Nadia Bey, stop.
Alors, je ne sais pas si vous. Non, je crois que c'est le matin. Bon, je regarde jamais ce.
Est-ce qu'on regarde Morandini? Tu vas sérieusement nous poser la question?
Non, j'ai la réponse. T'inquiète. Mais non, mais voilà, ça se passe comme ça tous les jours.
Le matin.
Je crois que c'est le matin.
Je ne sais pas à quoi il carbure, mais c'est pas mal.
Et le gars, enfin, sur ce plateau, je vois. Donc, il y a une Morandini qui hurle, qui dit à la dame, mais vous n'êtes pas digne d'être franco-algérienne, vous n'êtes pas, lui il est. Et sur le plateau, il y a Laurent Jacobelli. Bon, lui je connais un petit peu, il est du Rassemblement National. Il y a donc ce Maloum machin, et puis un journaliste, un petit gars que j'aimais bien, alors je sais plus son nom, qui a viré parce que je pense qu'il avait plus tellement de boulot.
Il y avait Abnous Chalmani ?
Non, pas du tout. Non, Mourad, ce que disait Mourad. Attends, je vais. Allez, si tape. Vos gueules, les mouettes. Pardon, c'est sorti comme ça. Non, mais Mourad disait que ce Maloum, c'était comme Abnous. Je ne sais pas si tu la connais bien. Oui. Je crois que tu aimes bien tout ce monde.
Elle a
un côté qui est très déplaisant depuis quelques temps. Et c'est pareil que le journaliste dont je parlais, là, sur CNews, et dont j'ai oublié le nom. Je crois qu'elle a besoin de fric, hein, comme tous. Mais jamais je ferais ça. Alors, hey, je suis franco-algérien. Les musulmans de France sont des apostats. Non, je ne sais pas ce qu'il dit exactement. Bon, bref.
Tu l'as bien fait, l'accent.
C'est juste. Non, mais voilà, ce pays va mal. Ce pays va mal, les gens.
Mais je crois qu'il y a un gros quiproquo. Plus personne ne sait d'où il parle, de quoi il parle, à quoi il pense. C'est quand même compliqué de communiquer.
C'est quand même dingue. Ouais. On en est là, vraiment. Vraiment. En tout cas, merci à Mourad d'être là pour démarrer cette émission et faire cette analyse des médias tous les mardis. On continue à bâton rompu.
À bâton rompu, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h.
Et donc, c'était 1er mai.
Ouais,
alors, j'ai pensé à comment j'allais lancer ça, puis je me suis dit.
T'aurais pu mettre la chanson de. Comment il s'appelle ?
Ouais.
Manif de 1er mai, je sais plus comment il s'appelle ce groupe.
Ouais. Non, mais par contre, ouais,
je ne veux pas travailler. Je refuse de travailler mieux. De Sexy Sushi.
C'est vrai, je connais pas tous ces gens.
Je ne veux pas, c'est encore genre.
Je ne connais pas tous.
Il faut venir en manif, hein, ils diffusent plein de musique.
Oui, absolument. Hein, notamment celui-là, mais on le réécoutera, je pense. Hein. Voilà, voilà, ça
c'est.
On le rediffusera pendant ta chronique. Allez, on t'écoute. Steven.
Alors, je crois que c'est Victor avant.
Ah, c'est Victor. Ben oui. Mais oui, c'est Victor avant. Ben justement.
Sur un petit retour historique du 1er mai.
Ben je te laisse l'international en dessous si tu veux.
Ouais, si tu veux, pourquoi pas, ça me dérange pas.
Alors, 1er mai, ça vient d'où?
Alors, le 1er mai, le 1er mai, en réalité, c'est le 1er mai 1886. À Chicago, dans les usines McCormick, a lieu une grève pour réclamer la journée de travail de 8 heures. La manifestation se passe plutôt bien jusqu'à ce que le. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas le préfet du coup, c'est. Enfin, je ne sais plus aux États-Unis comment ça s'appelle.
Shérif,
gouverneur. Non, le gouverneur, c'est
ah,
ça.
Bon.
Réclame l'évacuation par la police. L'évacuation qui est très musclée parce que, bien évidemment, les policiers tirent sur la foule. Ce qui entraîne la réplique des manifestants qui jettent des bombes artisanales sur les policiers parce qu'on est en pleine période anarchiste. Et du coup, c'est une période où c'est la propagande par le fait, voilà, la violence politique.
Je crois qu'il existe des photos, des vieilles photos où on peut voir des gens qui sont par terre, tout ça.
Et du coup, il y a eu 7 policiers tués, ce qui a enclenché un procès. Pour complot, carrément, puisque du coup c'était considéré comme étant un complot de militer pour ses droits sociaux, dans lequel seront condamnés 8 anarchistes supposés, dont la plupart à mort. L'événement devient le symbole international de ralliement de la classe ouvrière. Après, il y a eu plusieurs autres 1er mai comme ça qui ont eu. Nous, on a eu notre 1er mai spécial en France, c'était à Fourmies.
C'est ça.
Le 1er mai 1891 à Fourmies, dans le Nord, donc une ville textile que j'ai visitée d'ailleurs, qui a un super musée du textile.
Moi aussi.
Qui est extraordinaire, Fourmies, avec des anciennes machines qui datent du 19e siècle, etc. Et tout. C'est trop, trop bien.
Ouais.
Enfin, j'avais adoré. Et donc, du coup, encore une fois, rebelote, manifestation pour la journée de 8 heures. C'était une manifestation plutôt festive qui marchait plutôt bien. Le problème, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre de syndicalistes qui sont arrêtés par la police et qui sont amenés. Du coup, à l'hôtel de ville devant lequel se rassemblent les manifestants pour réclamer la libération de leurs camarades. Et malheureusement, du coup, la troupe a ouvert le feu sur les manifestants. Le tout a été réprimé dans le sang. On a eu 9 morts, dont plusieurs enfants. Enfin, voilà, parce que c'était une époque où les enfants devaient travailler, etc. Et tout, donc, compliqué. Ça a eu un retentissement national. Il y a eu la mise en cause du coup du sous-préfet de l'époque au niveau de l'État. Et Clémenceau a dit c'est le 4e État qui se lève et qui arrive à la conquête du pouvoir. Rien que ça. Il y avait le sens de la formule.
Quand même.
Le 1er mai, du coup, est devenu la Journée internationale des droits des travailleurs. Elle est institutionnalisée en France en 1919. Puis, il y a une interruption sous Pétain, bien évidemment, qui trouve que c'est... Voilà, que c'est trop conflictuel, que voilà, ça ne correspond pas à son vœu d'unité nationale et qui, du coup, rebaptise ça la fête du travail. Donc, je précise pour toutes les personnes qui disent que le 1er mai, c'est la fête du travail.
Et le 8 mars, la fête de la femme.
C'est
la
ça.
Journée de la femme.
Vous méritez des claques.
Vous méritez des claques parce que vous reprenez une logorée pétiniste. Voilà, bien évidemment, ça a été réinstauré en 1947 sous les communistes. Voilà, on a eu d'autres exemples. Le 1er mai 1977, une manifestation syndicale est attaquée à Istanbul par les loups gris, qui sont une milice d'extrême droite turque, du coup.
Clairement.
Où il y a eu plusieurs dizaines de morts aussi, etc. Et globalement, le 1er mai sonne toujours un petit peu révolutionnaire dans la tête des gens. C'est vrai que c'est le moment où toutes les luttes peuvent se rencontrer. C'est la seule manif obligatoire, entre guillemets, qui en plus est chômé, donc c'est plutôt pas mal.
Heureusement quoi.
Et c'est vrai que du coup, c'est souvent un endroit de revendication, mais même plus large que simplement la question sociale.
Vraiment.
Ça peut être, on voit par exemple, je sais pas si le 1er mai, il y avait.
Il y avait des trucs, on voyait cette convergence des luttes. On avait notamment OST, l'organisation Solidarité Trans, qui s'accordait avec Urgence Palestine pour chanter ensemble des chants révolutionnaires. Donc c'était plutôt sympa.
Ouais.
Et donc voilà, ça montre que le 1er mai, c'est plus seulement la fête des travailleurs et des travailleuses, mais c'est aussi c'est plus large. Et on avait aussi des étudiants. Donc,
Oui, bien sûr, on écoutera ça tout à l'heure. Mais je me retourne vers Marine, qui avait aussi préparé un truc historique. Ça va, il a tout dit
Ouais.
Tu veux rajouter des trucs?
Non, j'avais un peu plus de détails, mais oui, je peux rajouter que la manière dont c'est célébré, elle peut varier entre les différents pays, comme par exemple, à Dakar au Sénégal. Il y a habituellement un cortège de manifestants, tous vêtus de la même façon, qui défilent avec des coups de sifflet, des tam-tams aussi. Et la tradition, elle veut aussi qu'ils remettent un cahier de doléances au chef de l'État, mmh. où il y aurait écrit un peu toutes leurs revendications, etc.
Et cette année,
ce serait trop long à faire en France.
Non, mais en plus, c'est une
Macron
tradition.
Macron dégage, ça va. C'est... Ouais,
c'est vraie... ça tient sur une phrase.
C'est une vraie tradition au Sénégal. Et en plus, vous savez que le Sénégal a changé de gouvernement récemment avec des gens qui sont très à gauche, très... Et cette année, c'était encore plus fort, ce genre de choses. Et oui, c'est vrai. En Afrique, généralement, ils sont tous habillés de la même façon. C'est la fête. Bon, je me rappelle, quand j'étais petit, mes parents m'habillaient tout en blanc pour aller défiler. Je ne comprenais pas ce que c'était, mais c'était la teuf.
Pour le 1er mai ?
Pour le 1er mai.
Ah, d'accord.
On allait en famille, tous habillés en blanc. Et voilà. Du coup, à Orléans, le 1er mai, il s'est passé quoi ?
Orléans. Ah oui, Orléans. Il a un goût très prononcé... Il faut que j'arrête de boire moi quand j'écris. Il avait un goût très prononcé ce 1er mai à Orléans. Pardon, excusez-moi, je vais y arriver. D'un côté, on avait les bourgeois qui faisaient la traversée pour les fêtes de Jeanne d'Arc. Et de l'autre, tu avais les travailleurs et les travailleuses qui ont manifesté pour la journée internationale des travailleurs.
Alors, attends, juste un petit mot sur Jeanne d'Arc. Ils n'étaient pas tous bourgeois, il y avait des gens qui étaient obligés de travailler.
Ouais.
Pour toi qui aurais peut-être préféré aller manifester. Non, vas-y, fini.
Alors, j'ai un petit quiz. Alors, à votre avis, qui n'a pas eu de respect pour les travailleurs et les travailleuses et qui est venu jusqu'à Beaugency?
Ce jour-là.
Ouais, ce jour-là.
C'est bon. Montargis, non ? Ou
à Beaugency.
C'était à Beaugency. C'est pas Gabi ?
C'est Gabi. C'est Gabi Attal. Ouais. Ah, bah c'est con. Hein. À Orléans, c'était à deux pas. Ouais. Bon, peut-être qu'il était pas chaud pour se retrouver face à 1500 manifestants, selon la CGT. Après, vu comment il traite les travailleurs, les étrangers ou la jeunesse, je pense que c'était l'instinct de survie qui a pris le dessus, là, pour le coup. Ouais. D'ailleurs, en parlant d'étudiants, je leur ai demandé pourquoi ils sont venus à la manif plutôt que d'aller aux fêtes de Jeanne d'Arc, justement.
Et petite question un peu malicieuse de ma part, mais pourquoi être venu ici et pas au fait de Jeanne d'Arc ?
C'est très malicieux. Hein.
Bah, on ne peut pas représenter les droits des étudiants au fait de Jeanne d'Arc, c'est en manif plutôt.
Oui,
voilà, c'est la lutte, du coup, en manif. Les manifs sont plus importantes que d'aller à des fêtes... Voilà, le fait de Jeanne d'Arc, c'est plus un amusement, une reconstitution historique, peut-être. C'est pas forcément l'endroit qui où on doit être, tout simplement. C'est pas notre mission.
C'est pas notre mission.
Tu vois, donc, bon, conclusion, on s'en branle des fêtes de Jeanne d'Arc. Hein. Moi, tu vois, j'ai traité le sujet en étant à la manif. Bon, on continue avec la journée internationale des travailleurs. Et finalement, pourquoi est-ce que les étudiants, ils étaient présents à cette manifestation ?
On les écoute tout de suite.
Déjà parce que c'est une journée de lutte pour les droits des travailleurs. Nous, on est des futurs travailleurs. On est même on dit qu'on est des travailleurs en formation à l'UNEF. C'est que au bout d'un moment, on sera travailleurs. Et on voit que nos conditions d'études, elles permettent pas à ce qu'on puisse ensuite réussir à trouver un travail dans de bonnes conditions. On sait très bien que là, actuellement, il y a énormément d'étudiants qui sautent un repas, au moins un repas dans la journée, parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Il y a énormément de trucs comme ça, et c'est important qu'on puisse être présent en manifestation, parce que les jeunes aussi souffrent et ont besoin de... voilà.
Oui, de vite. Et puis, je vais rajouter qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont obligés de travailler à côté de leurs études. Enfin, par exemple, on a une pancarte qui dit que 3 étudiants sur 4 ont besoin de travailler pour vivre. Et c'est une situation trop précaire et qui, du coup, ils délaissent beaucoup leurs études pour vivre au final.
Non, franchement, les étudiants, ils prennent trop la confiance. Hein. Attal, il a dit l'avenir, c'est non. Hein. Je rappelle que Bruno Le Maire, qu'on appelle aussi dans le milieu le bulldozer, parce qu'il écrase tout, en fait. Il écrase le budget de l'environnement, des aides sociales et même des cyclistes. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour rembourser le déficit ? Ouais, les cyclistes vous coûtaient trop cher, donc maintenant ça dégage. Bref, tu m'étonnes que Gabi il a préféré ne pas venir partir à Beaugency plutôt que de rester loin des étudiants. D'ailleurs, il n'aurait pas eu seulement affaire aux étudiants. Les manifestants l'auraient aussi sûrement interpellé sur la question de la Palestine. Bah oui, parce que pendant que les bourgeois suivent une gamine à cheval dans tout Orléans, nous, nous avons un collectif Urgence Palestine en pleine création pour soutenir Gaza et la cause palestinienne. Et c'est durant cette manif du 1er mai qu'ils ont décidé d'annoncer la construction de ce mouvement
à travers leur représentant, Denis Petitjean.
Alors, Denis Petitjean, je suis le porte-parole d'Orléans-Loire-Palestine. Là, on a à la fois le collectif pour une paix juste et durable qui regroupe toutes les associations. Et on va créer à Orléans, incessamment sous peu, un collectif Urgence Palestine à partir de ce qui se fait en ce moment dans les banlieues et dans les quartiers où ce sont des jeunes et des jeunes issus de l'immigration qui prennent en main la question de la Palestine. Et aussi des jeunes étudiants qui sont en train d'occuper Sciences Po, etc. Voilà. On est là pour ça.
Et pourquoi avoir choisi le 1er mai pour se présenter ?
Parce que les syndicats palestiniens ont lancé un appel au soutien en France. Donc on suit l'appel des syndicats palestiniens pour les soutenir. Nous, on se calque sur ce que font les Palestiniens. Les syndicats palestiniens ayant demandé à ce qu'on les soutienne au 1er mai, on a décidé de faire un cortège Palestine au 1er mai. Voilà.
Et vous avez des liens avec, des personnes sur place en Palestine, à Gaza ?
Oui, alors si vous allez sur la page Facebook d'urgence Palestine Orléans et sur notre Instagram, vous verrez qu'on fait des vidéos. On a une équipe d'une palestinienne qui s'appelle Nabila Kilani, qui est prof de français et prof d'anglais, et qui a une équipe qui, grâce aux dons que nous faisons en France, achète au prix de gros des marchandises, de l'eau, par exemple potable, et les distribue gratuitement. Donc on a des liens permanents avec toute une équipe humanitaire de Gazaouis.
Bon, vous avez vu, la musique en fond, elle est plutôt cool. Hein. C'est pour ça que je vous dis, on s'amuse bien en manif. Et comme j'aime bien les problèmes, je suis tombé un petit peu par hasard sur LFI. Hein, avec mon côté taquin, comme on le connaît, hein, je leur ai demandé comment ça se passe à Orléans en ce moment pour eux, avec tout le traitement médiatique de LFI.
Et c'est vrai que le gouvernement et puis les instances, hein, comme la direction de Sciences Po, concernant la réunion prévue, donc il y a une volonté de réprimer et de faire taire certaines voix. Donc ces voix qui veulent défendre un peuple qui est génocidé, qui est en train d'être bombardé, et il s'agit de gens faibles et sans défense, des femmes, des enfants, des gens de tous les jours. Et là, au lieu d'avoir un geste d'humanité simple et naturel, eh bien, le gouvernement soutient absurdement.
Ah, ok. Ouais, bon, vous l'avez entendu, hein, LFI à Orléans, c'est pas la turbo-gauche non plus. Hein. Mais bon, allez, vas-y.
Non, mais juste dire que c'est Madame Joëlle de Nanterre.
C'est exactement ça. Mais bon, pour cette fois, on va les laisser. On a peut-être mieux à faire comme s'occuper de l'abject Darmanin qui vient poser son cul à Orléans pour l'inauguration officielle du CRA après 3 mois d'ouverture. Ça devient officiel que quand il vient. Genre les 64 migrants enfermés, ils comptent pour du beurre. On est à 64 migrants aujourd'hui. Enfin bref, je me disperse. Force aux manifestants et manifestantes. Hein, la lutte continue au-delà du 1er mai, évidemment. Et surtout, n'oubliez pas que l'international sera le nouveau genre humain.
Entre dans son cratère, c'est l'éruption de la fin du passé. Faisons table rase, vous restez debout. Le monde va changer de cap. Nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale.
Ah si si. Tu devrais enregistrer ça, Victor.
Ah non, j'ai pas une voix, c'est...
Viens manif.
Oh, bah, je...
Mais t'as la fougue, ça suffit.
Ça marcherait.
J'ai la passion.
Oui, c'est ce qui compte.
Ça marcherait.
Tu nous fais un petit album des chansons militantes.
Ouais. Ah bah, ma préférée, c'est La Semaine Sanglante.
Ah oui.
Qui est très très belle, j'adore. Elle est magnifique, cette chanson.
Et bien, un jour où on n'a pas d'actu, on se fait une spéciale chanson
révolutionnaire. Révolutionnaire, carrément. Avec grand plaisir.
Et bah, très bien. En attendant, et puis on est en retard, alors il y a une chronique d'Asma.
Ah bah, t'en rompu, 19h-20h sur Radio Campus Orléans.
Il y a une chronique d'Asma, et puis on appellera Tahar Ben Shaban juste derrière. Danny Rosenberg, c'est le réalisateur.
Le déserteur.
Le film.
Ça s'appelle Le déserteur. C'est en salle depuis le 24 avril au cinéma des Carmes. Je l'ai vu donc hier, de Danny Rosenberg. C'est un film israélien. Et c'est un film donc, qui met en scène un tout jeune acteur qui s'appelle Ido Tako, que moi personnellement j'ai trouvé très prometteur, vraiment une performance d'acteur. En plus, il est filmé de très très près. Mmh. Et donc, c'est un personnage d'une vingtaine d'années. On n'a pas d'informations, on devine qu'il a une vingtaine d'années, qui s'échappe du champ de bataille israélien dès le début du film, où il est au combat dans l'armée. Rapidement, il prend la fuite, tout seul. Il s'engage aveuglément dans une cavale. Il fuit, il court. Et cette cavale va avoir progressivement des conséquences qui vont lui échapper, le dépasser totalement. Donc on le voit courir, ramper, échapper à l'armée qu'il recherche. Il se cache, il vole un vélo, il escalade, il vole un téléphone, il vole de l'argent. Dès qu'il voit un truc à manger, il s'arrête, il mange à pleine main, comme ça. Il a le regard vif, déterminé. Déterminé à aller retrouver en fait son amoureuse, tout simplement, qu'il connaît à peine, qu'il a quitté dans un boulot saisonnier, et il a été arraché par la guerre, donc à une histoire d'amour, une jeunesse qui commençait à peine. Donc la force du film, c'est probablement cet acteur là, au visage si juvénile, qui est mené par la fougue de la jeunesse, la même que toi, Victor. On a un peu l'impression de suivre la cavale d'un jeune fou, d'ailleurs. C'est très intéressant, ces expressions de visage, son jeu d'acteur en fait. Il tente d'échapper à l'appel de la guerre qui envoie ses jeunes au combat. Il choisit autre chose et on le voit plus tard dans le film, le prix des risques qu'il prend. Et ce qui est très intéressant, c'est que lui, on a l'impression qu'il s'en rend pas compte, qu'il mesure pas le monde autour. On le voit comme ça complètement s'affoler à la fin, et ça va lui coûter un prix exorbitant. Sans dévoiler la fin, sans dévoiler les grands tournants du film, il fait entre autres face à sa mère qui lui ordonne de retourner d'où il a pris la fuite. C'est ça qui est assez fou et qui ne nous surprend pas tant que ça, tellement le film nous immerge dans ce qui se passe vraiment sur place, dans la façon de filmer, dans le climat, dans la musique, tout est fait pour nous immerger. Et c'est fou, donc on n'est pas surpris que ce film nous montre pourquoi et comment, dans un Proche-Orient en conflit éternel, on peut en arriver là à être une mère qui conseille à son fils, qui lui ordonne en fait, entre elle est tiraillée, elle est alarmée, elle lui ordonne pendant de longues scènes de retourner de là où il vient, parce que ça va être pire ce qu'il risque en fait. Voilà, la façon de filmer du réalisateur Danny Rosenberg, c'est tout aussi remarquable, des plans très serrés. Des scènes. C'est un film d'action aussi. Ça m'a fait penser à tous les garçons petits clichés de genre, tous les garçons qui aiment les films d'action. Je dirais que c'est même en fait une espèce de fusion entre film d'auteur, film d'action et romance. Ça nous immerge dans le suspense, dans les nombreuses cascades qu'il y a dans ce film, ou tantôt des caméras tremblantes dans les moments d'émotion, de lenteur qui nous plongent dans l'intériorité des personnages. Et leur tiraillement. Il y a aussi des moments drôles et très tendres. Il y a une histoire d'amour en fond. C'est un film sur la jeunesse avant tout, au milieu d'un pays en guerre qui vit totalement normalement. En fait, il y a une scène une scène d'un samedi soir dans un bar très ordinaire, dansant avec des jeunes qui boivent, qui draguent, qui rigolent. Et d'un coup, la sirène, comme il y a souvent dans le film, la sirène. Des jeunes qui nous ressemblent, en fait. D'un coup, la sirène, et tout le monde se met naturellement au sol, très sereinement. Jusqu'à entendre les bombes éclater plus loin, et puis la vie reprend très naturellement. Il y a une scène aussi très belle, très forte, où le jeune soldat en cavale s'arrête rendre visite à sa grand-mère au milieu de sa cavale, comme ça. Il rentre très naturellement, il dit à tout le monde qu'il est en permission. Il allume la télé pour regarder les infos, sa grand-mère l'éteint, elle lui dit que ça suffit, les mauvaises nouvelles, et puis ils dansent ensemble sur une musique espagnole dans le salon. C'est une scène particulièrement belle, comme il y en a beaucoup d'autres dans le film. Donc, le film est très fort pour ce qu'il montre à voir de cet Orient compliqué. Et encore, je ne peux vraiment pas dévoiler le dernier chapitre du film, mais la chute est incroyable.
On ira voir.
Voilà, on voit les conséquences de son évasion, son ampleur au niveau national, même international, que ça prend. C'est à la fois fou, totalement inattendu, abominablement terrible, parce qu'il est parti, personne ne sait où il est, donc il est soit mort, soit disparu. On le croit enlevé, et alors que c'est un jeune homme de 20 ans qui part, qui choisit de retrouver son amoureuse, c'est une décision totalement banale. Qui finit par lui coûter très cher. Voilà. C'est la force de ce film, c'est qu'on a un autre point de vue. C'est pour ça que je trouve que les films sont un autre point de vue qu'on ne voit pas dans les médias, en fait.
Bien sûr.
Qu'on ne voit pas du tout dans les médias.
Et bien sûr.
Et là, on se dit, ah, d'accord.
Ouais, et puis à l'aune de ce qui se passe en ce moment à Gaza, ça peut être intéressant d'aller voir cette partie-là, parce qu'il y a des jeunes gens, ils ne sont pas tous des
et je tiens à peut-être préciser, c'est un film israélien, oui. Mais il y a toute une grande complexité. Il n'y a pas de camp, c'est pas du tout. Bon. On n'en est pas du tout là, en fait.
Bon. Vraiment. Le déserteur de Danny Rosenberg, à voir évidemment au cinéma Les Carmes.
Ouais.
Allez, on se dépêche. Un peu de musique, merci à toi Asma. Un peu de musique, on appelle pour les 10 dernières minutes Tahar Ben Shaban.
My family, police be my allergy. Won't break my phone, yo, we no get skeleton. Some myself, they fear me. Black pass your melanin. Pumping in your body, we go burn some calories. No hymns for Methodist, pray for your enemies. I know they speak parables, and they ask my salary. Things don't be cool for me, don't kill my energy. Can't live in fallacy, you know, say you know me. Mama say we no go see, live your life and live free.
Jesus, take a house waiting for labor. We live life, now be Jesus.
Oui, allô? Salut Hassan. Oui, je t'entends.
Parodies, flashbacks, nerves, and this chemistry, extinctions of dysfunction, seeds of anomaly, that's me, floating in the deep as the synergy, I've been going on this merry-go-round, probably from the minute I was caging these doubts, lugging all my stress, I feel my shoulders getting down, but I stick around, keep it pumping till it's gone south, my words are weapons ripping out your inner fears, yeah, feel your heartbeat pulsing when I'm near. We don't look back, we're facing out the air. Never the rising, the dragon will appear. Revelation warned me, signs of rapture, capture. The last days is human disaster. I'm after the afterlife, after the spectre. Send the resistance in the presence of karma.
Le gars s'appelle Kweku of Ghana, K.O.J., c'est son nom de scène. Kweku est un artiste ghanéen qui est installé depuis 20 ans en Angleterre et qui, depuis 20 ans, il fait des choses avec plein de gens tout le temps. Et tout le temps, c'est un succès. À l'instant, son dernier, un extrait de son dernier album qui sort dans quelques jours, ça s'appelle Live for Today. Et au téléphone avec nous, Tahar Ben Shaban. Bonsoir Tahar, vous nous entendez bien?
Bonsoir Hassan.
Ah oui, vous nous entendez bien. On vous entend bien également pour parler là, pendant les 10 dernières minutes de cette émission de ce qu'on appelle la MSE Zagreb, c'est la Medical Studies in English, t'as qu'à voir, qui pilote une faculté de médecine, une faculté privée, parce qu'on va parler de l'autre également. Un petit mot d'abord sur cette faculté qui a été annoncée en septembre 2022 hein, par la municipalité.
C'est ça, c'est ça.
Oui, allez-y. Allez-y.
Oui, et donc, ce que j'ai qualifié de fumisterie continue, puisque l'argent public du contribuable orléanais finance une formation privée de l'Université de Zagreb, alors que l'Université d'Orléans, sur le campus de la Source, offre depuis bientôt 3 ans un enseignement en médecine publique pour lequel la ville d'Orléans n'a pas mis un seul euro, oui, malgré des sollicitations.
Et c'était c'est le gouvernement hein, qui l'a annoncé, hein, le Premier ministre.
Oui, tout à fait. C'est le gouvernement Castex qui a lancé ça en 2022. À la rentrée prochaine, les étudiants de l'Université d'Orléans pourront bénéficier d'une troisième année de médecine, oui. Et l'année d'après, d'une quatrième année de médecine. Pourquoi cette initiative? Voilà, même si j'ai des éléments de réponse que j'aimerais fournir, puisque bah, ce projet... Mais
fournissez-les ici, on dit la vérité, vous le savez, vous êtes déjà passé dans l'émission.
Oui, oui, non, mais de toute façon, c'est public. ce projet avec Zagreb n'a ni queue ni tête, ouais. Sauf qu'il profite à des gens à Orléans qui, généralement, gagnent bien leur vie et qui trouvent qu'ils n'en gagnent pas assez.
Mais, alors, justement, c'est, ça, c'est là-dessus que j'avais envie qu'on discute à Arben Chaban, parce que les étudiants, les jeunes qui sont avec moi en studio, ne connaissent pas qu'est-ce qu'il y a derrière les locaux, j'allais dire, de cette université de Zagreb. C'est une association qui a été créée avec des élus, des médecins.
Non, c'est une association qui a été créée. Alors, d'abord, ils ont essayé quand je dis « ils », la ville d'Orléans, le maire d'Orléans et son adjoint à la santé, Monsieur Montillo,
d'accord.
Nommer les choses et nommer les gens. Oui. Ils ont monté une association dans laquelle ils ont mis des universitaires qui sont à la retraite depuis très longtemps. je peux vous donner les noms, Gérard.
Ah non, Lumet. Non,
voilà, bon, je ne donne pas de nom, mais en tout cas, les statuts de l'association sont publics. Moi, je les ai. Et il y a des gens qui ont quitté l'université depuis 20 ans.
Donc, ils sont dedans.
Mais c'est pour faire ronflant.
Oui, et, bien sûr.
Et, ça encore, c'est pas grave. Ouais. Ce qui l'est, c'est que l'argent du contribuable orléanais sert à financer une formation privée de l'université de Zagreb, qui est, alors j'espère que tout le monde arrive à suivre, qui est une université publique.
Bien sûr.
L'université de Zagreb, parce que souvent le maire d'Orléans dit « mais c'est absurde, l'université de Zagreb est publique ». Oui, elle est publique. Et elle offre, elle a une faculté de médecine en croate, mais à 50 euros par an.
D'accord.
Mais à côté, ils ont développé une filière privée à 12 000 euros par an et par étudiant.
Et ça, c'est
et
en
la
anglais.
Ville d'Orléans finance cette dernière filière. Voilà, oui. C'est le problème, il est là. Et alors que nous avons notre propre fac de médecine qu'il faudrait aider et consolider.
Bien sûr, bien sûr. Évidemment, hein, ça a été, je crois, France Université, enfin la conférence des présidents d'université, s'en était ému. Il y a également
tout à fait. L'IGAS a fait un rapport au vitriol sur cette formation avec Zagreb, l'inspection générale des affaires sociales. Personne ne comprend. Bon, sauf que ça profite à des gens à Orléans, des universitaires, des hospitaliers qui ont une activité annexe. Pour certains d'ailleurs, je l'ai écrit sur mon fil Twitter, en infraction avec la réglementation sur le cumul des emplois.
On a du mal à voir, je vous le dis pour avoir appelé plus souvent, pour essayer d'aller rencontrer des étudiants, parce qu'ils sont la plupart du temps ici.
Mais c'est l'opacité la plus totale. Ils ne veulent pas que les étudiants rencontrent les journalistes.
Mais oui.
C'est l'opacité la plus totale. Ouais. Sur le site, il n'y a pas l'équipe pédagogique, même si moi j'ai les noms. Et d'ailleurs, un média local a fait un bon papier pour citer des noms de responsables, dont certains sont mis en examen. Alors, bien sûr, mise en examen, chaque mise en examen bénéficie de la présomption d'innocence.
Oui, mais ça, mais, par contre, on veut dire le nom, c'est l'ancien président, l'ancien doyen de l'université de la faculté de sciences, c'est M. Schmitt-Houy dont
on parlait. Un principe de précaution aurait été de ne pas s'engager avec ce monsieur, sans présumer de sa culpabilité ou pas, ça c'est la justice qui le dira. Mais pourquoi s'engager avec des gens qui sont poursuivis pour fraude fiscale, détournement de fonds publics, blanchiment de fraude fiscale. C'est factuel, tout ça. Et la ville d'Orléans et son maire sont engagés dans ce projet, encore une fois, qui n'a ni queue ni tête, du fait même qu'il existe une faculté de médecine à Orléans.
C'est un grand combat pour vous, Tahar Ben Chaban, ça. Hein.
Ah oui, voilà. Et puis maintenant, il y a un nouveau projet, paraît-il. J'ai lu ça dans le journal local. Un nouveau projet sport et santé. Oui. J'ai découvert que c'était avec la même équipe.
Et c'est quoi ?
Avec l'argent du contribuable orléanais.
Mais c'est quoi ?
Et c'est pour ça que j'ai rendu visite la semaine dernière au siège de l'IGAS pour faire un signalement, parce que c'est pas parce qu'on a gagné les élections, et encore, M. Grouard les a gagnées en étant, selon les termes de la c'est un maire illégitime. Je l'ai écrit plusieurs fois. Non, c'est un maire illégitime. Non, mais... parce que c'est pas moi qui le dis. La Commission nationale du financement des campagnes électorales a dit qu'il a triché.
Ouais, je blaguais. Non,
elle l'a dit, c'est écrit. Donc, je n'invente rien.
Oui, bien sûr.
Pour moi, c'est un maire illégitime. Et je me fonde sur la Commission nationale de financement des campagnes électorales.
Tahar Ben Shaban, je réitère, hein, je l'ai fait par téléphone, mais je réitère une invitation à venir en direct. Vous l'avez déjà fait. Bah, on aura plus le temps.
Avec plaisir. Le temps de faire avancer le deuxième signalement, et je viendrai avec plaisir l'exposer à vos auditeurs.
En attendant, amis auditeurs, allez suivre le fil Twitter de Tahar Ben Shaban parce qu'il y a plein d'informations là-dessus. Nous, journalistes, on n'arrive pas à avoir toutes les informations parce qu'il y a une opacité. Mais Tahar Ben Shaban réussit à en avoir quelques-unes quand même. Merci d'être passé pour ce court moment, mais il faut venir dans l'émission Tahar.
Merci pour votre invitation et je viendrai bien volontiers et avec plaisir.
Très bien. Merci à vous d'avoir suivi
cette émission. À bientôt, Hassan. Bonne soirée.
À très, très bientôt, Tahar Ben Shaban.
À bientôt. Au revoir.
Dans un instant, sur.